Bonjour et bienvenue à Histoire de s'en jaser. Aujourd'hui, on reçoit Laurie Berger-Saint-Pierre, qui est une étudiante de dernière année en études anciennes. Elle vient nous parler de la magie au 2e siècle après Jésus-Christ ou post-Christum.
Christum.
Christum, c'est ça que je pensais dire. Puis là, j'étais comme... Identification, elle va nous parler en fait de... Elle va identifier le magicien type, elle va également parler de la représentation des magiciens et de la magie dans les sources, et principalement, elle va nous parler de Apulée et de Landor. Donc, bonjour Laurie.
Bonjour Rose.
Pour commencer, est-ce que tu voudrais nous dire d'où vient ton intérêt pour l'Antiquité, là, comment c'est né tout ça?
Pour être honnête, je me suis vraiment lancée au bac un peu... aveuglément. En histoire, le bac en histoire et le bac en études anciennes, j'ai été plus vendue par le fait qu'on n'apprenait pas l'histoire du Canada une dixième fois dans le parcours, surtout. Puis l'Antiquité, étant donné qu'on n'en parle pas beaucoup non plus durant les cours au secondaire et au cégep, je me suis dit que je vais peut-être pousser un peu là-dedans.
Est-ce que t'es contente d'avoir fait ce choix?
Oui! Le meilleur!
OK, puis la deuxième question, moi, je me suis posé cette question-là dès que j'ai vu ton travail. Pourquoi la magie, et la question importante, es-tu une fan d'Harry Potter? Est-ce que ça l'a pris racine à cause de ça?
Même pas. C'est pas Harry Potter qui m'a initié à la magie en soi. J'ai pas été une grande lectrice dès mon primaire en partant, puis au secondaire non plus. J'étais plus dans les sports, donc tout ce qui est film, lecture, pas beaucoup. En fait, la magie m'a intéressée avec les cours de religion à Grèce et à Rome qu'on donne ici à l'Université Laval. Puis je me suis dit, ah, j'aimerais ça travailler là-dessus, puisqu'on en parle en 30 secondes avec la professeure en question. Et voilà, c'est comme ça que ça est né mon intérêt pour la magie, surtout.
Puis j'imagine aussi avec le fait de lire Apulée trois fois pendant ton parcours universitaire.
Oui, minimalement trois fois.
C'est un livre populaire en études anciennes, Apulée Landor. Peux-tu d'abord, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, puis qu'on parle de la magie, tout ça, peux-tu nous parler, grosso modo, là, du contexte politique, social du 2e siècle après Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe, là, finalement, à ce moment-là? Justement, on n'entend pas beaucoup parler, donc ça va aider les auditeurs.
Donc, le 2e siècle, en fait, se caractérise par le règne de la dynastie des Antonins. On part avec Adrien ou Trajan, par cœur, je ne me souviens plus. Puis, on va jusqu'à Marc Aurèle, en fait. Donc, l'empereur philosophe bien connu, barbu, avec Lucien, je pense, qui est mort assez vite. Puis, c'est à une époque où que l'Empire romain commence à avoir des problèmes avec ses frontières, ses limes, ses limites encore stables. C'est juste à la frontière germanique que c'est plus fragile, disons.
Puis, pour la religion, à ce moment-là, est-ce que c'est encore une majorité de religions païennes où il y a l'avènement du christianisme? Est-ce que...
Le christianisme est effectivement vivant durant cette époque. Cependant, Marc Aurèle n'aime pas tant non plus les chrétiens parce qu'ils sont une source de menace pour eux, mais ils sont différenciés des juifs, ce qui donne une chance aussi un peu aux attaques contre ces personnes-là. Puis, la religion païenne reste encore très présente à ce moment.
Parfait. Puis, parlant de religion païenne, étant donné qu'on va parler de la magie, est-ce que tu peux identifier un peu les divinités qui ont rapport avec l'univers de la magie de façon générale?
Il y a principalement Hécate, déesse de la magie, qui est très présente. En fait, on la retrouve souvent avec une statue à trois têtes pour le chiffre 3, que j'en parlerai plus tard probablement. Puis c'est pas mal tout, pour être honnête.
OK. Puis Hécate, c'est une déesse chthonienne,
Donc, reliée à la mort aussi, parce que, veux pas, la magie à l'époque du 2e siècle, c'est très sanguinaire, si on veut, là.
OK. Est-ce que c'est pour ça, dans le fond, que c'était répréhensible, la magie? Ben, est-ce que c'était répréhensible à ce moment-là? Si on faisait de la magie, est-ce qu'on pouvait...
Partiellement pas, en fait. Parce qu'on ne fait pas la différence entre la magie noire et la magie blanche, ce qu'on fait avec le Moyen-Âge, littéralement. Mais c'est qu'on ne différencie pas non plus médecine et magie. Parce que Asclépios peut te faire un beau songe dans la nuit pour dire « Voici ton remède, demande-le à ton prêtre. » Puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est tout aussi dégueulasse que ce que notre magicien va faire à côté.
OK.
On vient d'en parler un peu, les raisons d'avoir recours à la magie à cette époque-là. Bon, là, on a médecine, puis il n'y a pas de différence. Est-ce que tu peux un peu développer là-dessus? Puis là, moi, j'ai un mot là, qui me comme sanguinaire. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as dit que la magie était sanguinaire à cette époque?
On cherche beaucoup à faire mourir son ennemi ou son voisin qui est vraiment fatigant. Là. On peut vraiment les chercher de même. C'est pour ça le mot sanguinaire. Là. On trouve souvent des tablettes « je veux la mort d'un tel parce qu'il m'a volé 100 bœufs », mettons. Là. Je suis comme « ça, c'est intéressant ». Mais c'est pour ça... Surtout. Puis l'autre question, c'était, juste me le rappeler.
Mais là, moi, en fait, je voulais juste que tu développes, tu sais, sanguinaire, okay. C'est ça, je veux la mort de, ben, comment tu fais la mort? Bon, si c'est pas comme dans Harry Potter où que tu vas faire un vrai Avada Kedavra, OK, mais comment tu fais? Tu sais, la magie, c'est quoi? Tu sais, moi, j'ai vraiment la représentation classique cinématographique d'un rituel avec comme une fourche, puis tout.
La mort en personne, comme on dit.
Oui.
À la limite. Ouais. En fait, c'est on souhaite la plus grande mort. On sait pas comment, mais on lui souhaite la plus grande mort.
Ah, OK.
Ça veut tout dire. Dans le fond, l'important, c'est que tu ne sois pas inhumé, parce que ton âme va rôder sur la terre éternellement.
En fait, tu souhaites une malédiction, finalement.
C'est une malédiction.
OK. Puis comment, est-ce qu'il y a des moyens pour mettre comme à jour, mettre cette malédiction-là en branle?
En fait, il faut que tu invoques un dieu.
OK.
Tu spécifies en premier quelle personne tu veux frapper. Tu dis « j'invoque tel Dieu parce qu'il a fait ça, je lui souhaite la plus grande mort. » De mémoire, c'est rapidement, c'est comme ça.
Ah, ben c'est assez simple. C'est assez simple.
Oui.
C'est assez simple, hein, avant ce qu'on veut dans la vie.
Oui, j'aimerais ça, moi aussi. Prendre des notes.
Oui. Ouais. Donner les gens qui me volent toutes mes vaches.
C'est pourquoi pas. Maintenant, on va le savoir.
Sinon, tu viens d'en parler brièvement, là, mais... quels moyens utilisent les magiciens ou les magiciennes pour faire des sorts? Tu avais aussi abordé tout à l'heure la symbolique du chiffre 3. Est-ce que tu voulais développer un peu là-dessus?
Oui, je peux en parler. Donc, le chiffre 3, en fait, amène l'idée que c'est pour faire plaisir aux dieux. On dit, peu importe que ce soit quel rituel qui soit magique, de mauvaise foi ou de bonne foi pour les prêtres, si on répète une fois une incantation, on peut dire que c'est une erreur. 4 fois, ça ne marche pas, tout simplement. 3, c'est le chiffre parfait. Puis, en fait, elle renvoie aussi à la déesse 4 parce qu'elle a souvent 3 têtes sur toutes ses représentations figurées. Puis, sinon, on peut aussi penser aux tablettes de plomb pour lancer une défixio. Donc, c'est vraiment un envoûtement. Le plomb, en fait, c'est un matériau pas cher et super poison, comme la céruse qu'on a utilisée par centaines d'années. Puis, aussi, on peut utiliser quelques liquides, là, poison liquide, en fait, là, totalement.
Puis, je pense qu'il y avait aussi un moment où tu avais abordé, ben pas encore aujourd'hui, mais dans le travail que tu nous avais soumis, là, tu avais parlé de poisson.
Oui.
Puis là, ça a soulevé un tollé, là, au moment de rédiger les questions. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel poisson? Une truite?
En fait, n'importe quel poisson, puisque c'est reconnu par être un des ingrédients numéro un des magiciens. C'est pas des truites, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas ça en mer Méditerranée.
Oh non!
Ou du saumon. Mais ils ont le Lepus marinus et le Weretilum, ou le Weirginal. On prononce pas le V à la française, donc vraiment comme un W, tel un wapiti. Donc, ces poissons-là, en fait, sont reconnus parce qu'ils sont... à connotation vraiment sexuelle, donc un virginal ou un veritilum. Donc, c'est vraiment ça le problème. Puis, n'importe quel poisson peut faire l'affaire parce qu'on prend une partie anatomique en question, puis ça va faire effet pour certains filtres, comme une recette de grand-mère. Là. On dit que les branchies sont bonnes pour, par exemple, la respiration. Là, j'y fais très logiquement parce que les branchies, c'est fait pour respirer pour un poisson, là, mais... Ou je prends, par exemple, les yeux, c'est excellent pour, je sais pas moi, la virilité sexuelle, là.
OK.
Ça peut vraiment être pour ça.
Intéressant. Puis là où je voulais aussi m'en aller, c'est par rapport à l'identification du magicien dans les sources. Je sais que tu avais aussi abordé le fait que les magiciens, souvent, ils traînaient comme dans des allées sombres, tout ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment on identifie le magicien?
En fait, il n'y a pas de magicien type, comme on dirait aujourd'hui, avec un chapeau aux formes, des gants blancs et une baguette.
Dans le fond, tu ne vas pas voir Albus Dumbledore débarquer, c'est ça?
Clairement pas. Mais... tant que c'est quelque chose de sombre, lugubre, donc un peu comme Severus, ça fonctionnerait. Donc, il se promène dans les forêts sombres aussi et dense, à cause aussi du parallèle à faire avec les cultes à mystère, qui est un sujet tout aussi intéressant, mais qui prendrait aussi 3 heures à expliquer. Les cimetières, parce qu'on peut parler aussi de nécrophilie, ou nécromancie avec. Puis la Thessalie en général, parce que selon les anciens, c'est le repas numéro un de toutes les sorciers et sorcières.
Donc là, si moi, mettons, j'avais besoin d'avoir accès à un sorcier pour maudire toutes les personnes qui ont volé mes vaches, j'irais soit dans les allées douteuses des cités, soit dans la forêt, où je ferais un voyage très sécuritaire en Thessalie. C'est ça mes options. Okay.
Ou dans un cimetière.
Ou dans un cimetière. OK, parfait. Mais la nécropole est quand même pas trop loin. Fait que ça va peut-être être ça, là.
Mais en expliquant ça, on peut pas rattacher un imaginaire un peu sombre malgré tout au magicien. C'est pas... Non?
Non. En fait, physiquement, on n'a pas de représentation. Ou si on en a, sont vraiment caricaturés. Donc, il faut faire la part des choses. Probablement qu'ils vont être... pas beau, limite lépreux, crasse, etc.
Eh bien. Moi, une question que je me posais, et ça en étant en étude en histoire, c'est, bon, les magiciens, magiciennes qu'on connaît beaucoup, ces exemples, les sorcières de Salem ou la chasse des sorcières au 17e, 18e siècle. Puis, bon, on voit une différenciation entre l'homme et la femme. Et puis, est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça à cette époque-là? Surtout que tu parles que c'est associé à une déesse. Est-ce que les femmes étaient plus prompts à être accusées? Est-ce qu'il y avait des accusations? Est-ce que tu peux développer là-dessus?
L'idée que ce soit plus les femmes que les hommes, en fait, on n'a pas de preuves pour le moment. Et je n'ai pas eu le temps de chercher non plus. Mais c'est vraiment une idée médiévale un peu de ça, qui a été aussi tenue probablement par la Renaissance, là, les temps modernes. Puis, il y a... Oui, il y avait des chasses un peu, mais c'était difficile parce qu'encore une fois, la magie est très difficilement séparable de la religion en général. Puis, pour accuser un magicien, en fait, il faut l'avoir vu, l'amener en cours, puis dire « je l'ai vu faire ça, ça, ça ». Et là, il faut développer un bon plaidoyer, comme un peu Démosthène pourrait faire. Ou...
OK, voilà. Mais ça allait déjà, en fait... pousser quelqu'un à, exemple, aller en cours et la personne accusée à se faire exécuter. Est-ce qu'on a des preuves de ça?
Je n'ai aucune idée, pour être honnête, à ce sujet-là.
Mais il y a plein de choses qui pouvaient être amenées en cours aussi en Antiquité. Oui. Là, on avait parlé dans un de nos cours, Laurie était là d'ailleurs, une femme qui était trop belle. Elle avait été amenée
pourquoi
en cours
okay.
parce qu'elle était trop belle puis elle distrayait les hommes. Comme quoi, ça, c'est un débat de tous les jours, hein? Oui. Des camisoles avec des petites bretelles ou des grosses bretelles. Mais oui, donc, on pouvait vraiment amener les gens pour n'importe quoi.
Tu peux lui dire, c'est parce qu'il m'a volé une pécune, là, une scène, par exemple, puis si t'as un bon développement, tu vas être accusé, tu vas lui ordonner sa pécune, là.
C'est intéressant.
Faut que tu sois ami avec les orateurs aussi. Donc, il faut que tu aies un ami sorcier pour maudire les gens qui volent tes vaches, mais un ami orateur pour te protéger en tout temps. C'est ça.
C'est l'important. Des enveloppes brunes, c'était important aussi à l'époque.
Ah oui?
Oui.
Pour te sauver.
Mais là, te sauver de tout.
Puis c'est peut-être mon ignorance en antiquité, mais encore là, je vais pousser sur... Est-ce que ça existait des bûchers? Ou, tu sais, moi, j'ai vraiment une idée moderne. Puis là, j'imagine les gens qui nous écoutent, puis eux ont aussi l'image des sorcières de Salem et du fameux bûcher. Est-ce que ça l'arrivait, des bûchers, ou c'était pas comme ça que les gens faisaient exécuter en antiquité, ou tu te faisais pas...
Ça dépend. Si on prend Néron, il a fait un bûcher sur la Via Appia, donc une des rues principales de Rome avec des chrétiens, pour avoir fait l'incendie de Rome en 64, de mémoire.
OK.
Donc, mais encore là, ça prend avec d'énormes guillemets. Parce qu'il n'y a rien de prouvé, puis comme les corps sont incinérés, ben, on ne le sait pas.
Bon point.
Mais sinon, conséquences en soi, ça peut être l'exil, ça peut être aussi la mort, mais de quelle manière, on ne sait pas. Ou ça peut finir dans les jeux.
Ah, ben oui, pourquoi pas.
Puis, Tu nous as parlé un petit peu des sources archéologiques puis épigraphiques là, en parlant des tablettes de plomb, justement, où on écrivait là, « je maudis telle personne », etc., etc. Puis, est-ce que la magie est attestée dans des sources littéraires?
Oui, beaucoup les romans ou les épopées. On peut penser à Circé dans l'Iliade, l'Odyssée, pardon, je suis en train de mélanger mes deux grandes bibles, si on veut. On peut penser à Médée aussi, avec les argonautiques de Apollonios de Rhodes. Puis Apulée aussi, qui nous en a montré un très bon exemple pendant très longtemps.
Parlant d'Apulée, moi je ne connais point Apulée. Et je sais que pour les personnes en Antiquité, Apulée, tout le monde connaît Apulée en Antiquité. Mais est-ce que tu pourrais me parler un peu de cette personne-là, son lieu de naissance, sa vie, sa profession? Qu'est-ce que Apulée a fait dans sa vie?
Apulée, en fait, c'est un orateur et écrivain latin qui a vécu entre 123 et 170 après Jésus-Christ. Il vient de Carthage, où il a appris un peu les rudiments de la rhétorique, puis il a décidé de se diriger à Athènes, une des plus grandes cités, pour apprendre, approfondir ses connaissances, et en même temps, il en a profité pour s'initier à quelques cultes à mystère. Donc, on peut penser à ceux de Dionysos, un autre aussi qui me sort de la tête, mais il y en a plus qu'un.
Oui, je l'ai moi aussi sur le bout de la langue. Je vais y penser, je vais revenir avec ça.
En même temps, il en profite pour s'intéresser à la philosophie platonicienne, donc le monde des idées. Il voyage à Rome, essaie de faire carrière aussi à Carthage en rhétorique, échoue un peu, retourne à Oea, donc l'actuelle Tripoli en Libye, où il meurt de ses paisibles jours. Et au travers de tous ses voyages et séjours, il a écrit quand même minimalement trois œuvres, dont l'Apologie, qui est son discours de plaidoirie pour son procès. Floridès, qui est un recueil de 23 textes qui lui sont attribués par le style d'écriture. Donc, c'est les modernes et contemporains qui ont dit « ça va être à lui qu'on va y donner ». Et l'Andor ou les Métamorphoses.
C'est les mystères d'Eleusis. Qui sont juste à côté d'Athènes.
C'est ça.
Ah. Puis c'est parmi les plus anciens, d'ailleurs, les mystères d'Eleusis. Ouais. Puis c'est de là que sont nés tous les autres cultes à mystère. Puis rapidement, là, un culte à mystère, finalement, là, c'est comme des sectes, mais c'est vraiment grand, là. Comme pour les mystères d'Eleusis, si je ne me trompe pas, c'était presque l'entièreté d'Athènes qui adhérait à ça. C'était autant les hommes que les femmes. Puis c'est que tu... là, pour Eleusis, je pense que c'était par rapport à Déméter, hein?
Oui.
C'est ça, c'est que tu voues un culte particulier à une divinité. Puis il y a aussi tout cet imaginaire-là, entre autres pour les cultes à mystère de Dionysos, là. Mm-hmm. Je sais qu'il y avait tout l'imaginaire, justement, de la vie après la mort.
Oui.
Puis ça, c'est pour ça que c'était autant populaire, c'est que dans l'imaginaire, je pense, grec-romain, quand tu meurs, tu meurs.
Oui.
Tu peux peut-être aller dans les étoiles. Il y a des petites choses qui peuvent se passer, mais en général, tu es dans terre, puis c'est fini. Mais là, avec ces nouveaux cultes à mystère-là, ben, il y a tout cet imaginaire-là de peut-être une vie après la mort. Donc, c'est quand même populaire. Là. C'est ouais. Ça, rapidement, un culte à mystère, mais on ne sait pas vraiment parce que c'est secret.
Ouais.
Ah. C'est ça, fait que personne n'a laissé des traces.
Ça. En fait, on retrouve des traces par l'épigraphie, des petites lamelles pour dire... lamelles d'or. Aussi, quelques poèmes. Que je sais qu'une de nos professeurs à l'Université Laval est spécialiste là-dedans.
Anne-France Morin.
Oui.
OK, puis est-ce que tu penses que cette adhésion-là à des cultes à mystère ont influencé finalement son écriture, sa vie? Est-ce que ça avait un impact finalement dans ta croyance, dans la façon dont tu vivais?
Oui, ça peut avoir un impact parce que tu dois rendre des cultes supplémentaires autres qu'à l'empereur à ce moment-là et au dieu de la cité. Mais ça ne change pas ta vie, à moins que tu sois un pythagoricien et que là, tu ne manges pas de viande, tu ne manges que des légumes, tu fasses tant de jeûne, un enfer total. Mais en général, ça ne va pas changer. Puis tu vas juste avoir aussi plus de petites statues dans l'Arès, qui est l'hôtel pour les dieux de la famille, en fait.
Parfait. Puis, maintenant qu'on a parlé un petit peu de Apulée en tant que telle, est-ce que tu voudrais nous résumer rapidement l'Andor, les Métamorphoses, pour qu'on sache où est la magie dans l'œuvre?
La magie est partout. Donc, ça commence avec notre personnage, Lucius, qui se promène beaucoup en Grèce. Donc, on commence l'histoire en Thessalie, une région au nord d'Athènes. près de la mer Noire. Puis, lui, notre protagoniste, souhaite à tout prix apercevoir un magicien ou une magicienne à l'œuvre. Il est dans l'endroit rêvé. Donc, la femme de son hôte, Pamphile, qui en est une, fait un tour en soirée pour se transformer en hibou, animal relativement redouté aussi en antiquité. Puis, il veut reproduire le tout. Il le fait et devient un âne. Donc, il doit se débrouiller un peu dans la vie de cet animal de bas jusqu'à ce qu'un jour, il reçoive un songe d'Isis, vraiment la déesse grecque, pour connaître son véritable remède à sa malédiction.
Isis, c'est la déesse de...
Ouh, ça remonte loin.
Parce que dans Percy Jackson, c'est la déesse des arcs-en-ciel. Donc,
c'est pas des arcs-en-ciel, mais je sais que c'est la femme d'Osiris dans la mythologie grecque.
Oui, dans la mythologie égyptienne. Ben, c'est une déesse
c'est une reine mythique, déesse funéraire de l'Égypte antique, d'après Wikipédia.
Oui, mais peut-être qu'elle a été transposée dans la mythologie grecque. C'est sûr. Ça arrive souvent, ça.
C'est sûr.
Puis les Grecs avaient une grosse estime de l'Égypte aussi. Oui. Hein.
Hérodote en particulier.
Mais moi, il y a de quoi... Par un bout, en fait, dans l'histoire, là, le personnage principal a vécu en tant qu'âne.
Oui, mais ça, avec une norme, une pensée humaine.
Un peu Shrek, là.
Oui.
OK, merci.
Ou sinon, si on veut
c'est
aussi...
Eddie Murphy. Tout ce temps-là, c'était Eddie Murphy là-dedans.
Ça y est, on a résolu.
Sinon, ça peut être aussi, on peut penser aux formes de La Fontaine, ou encore mieux, Ésope, parce que La Fontaine... bon antiquisant savent qu'il a copié Ésope. Donc, l'animal est une représentation physique, mais il a l'âme humaine.
OK. C'est vraiment intéressant. Par rapport à ça, quelles ont été les conséquences de l'écriture de cet ouvrage-là dans l'Antiquité? Est-ce que ça a eu une répercussion ou c'est juste parce que nous, on a encore aujourd'hui des traces de cette écriture-là?
Ça a une répercussion pour Apulée dans sa vie, en fait, avec un cumulatif de tout ce qu'il a fait, dont se promener dans les ruelles, guérir une malade, aussi posséder des poissons et les collectionner, ce qui fait en sorte que lui, Apulée, devient un accusé de magie.
OK, des poissons, pas des poisons.
Des poissons.
Des poissons.
Des fiches.
Okay. Mais...
Piscus.
mais c'est quoi, il gardait ses poissons dans sa maison et ça l'a fait accuser.
Ah, ça devait sentir mauvais dans cette maison-là.
Oui, mais c'était aussi dégueulasse.
Mais il les gardait séchés.
Il pouvait les garder séchés ou dans des bocaux pour les étudier après, là. Ou dans une saumure pour aussi les conserver à plus long terme.
Sa maison devait être terrifiante.
Terrifiante, dégueulasse, puante.
Ouais. Mais tu sais, je comprends qu'il est accusé.
J'imagine juste le sorcier qui aide Brutus dans le film Astérix aux Jeux Olympiques. Oui. Là, c'est aussi crasse et lugubre que ça.
Mais je comprends bien. Puis quand il a été accusé, est-ce qu'il y a eu des répercussions?
En fait, il a dû se défendre tout seul parce qu'il avait une formation en rhétorique. Mais après ça, ça n'a pas changé son cours de vie, ça n'a pas changé le cours de la vie des magiciens et magiciennes non plus de l'Antiquité, parce qu'ils savent que ça arrive une fois de temps en temps, puis est un bon orateur que tu connais, puis tu vas être bon pour t'en sortir.
Puis qui a été accusé? Est-ce que c'était juste par rapport aux poissons, ou il y avait d'autres choses dans la magie, tu sais, tu parles un peu de talismans et tout, des poisons aussi? Pourquoi je me mélange à poisson-poison?
En fait, c'est un cumulatif de tout, là. Aussi, celui qui l'accuse, c'est-à-dire son futur beau-frère, il dit qu'il a vendu 3 esclaves, mais là, il n'y a pas tant d'importance à y accorder, là, je veux dire. Il a vendu 3 esclaves parce qu'il n'avait plus besoin, là, il n'y a rien à faire avec. Les talismans, en fait, c'est que pour les Romains et les Grecs aussi, on peut jouer sur le fait que ce soit la rare, donc vraiment les dieux de la famille. Un peu, je ne sais pas si vous avez écouté La résurrection du Christ, Risen, en 2016, quand Clavius, le personnage principal, dit « Aide-moi à trouver le Christ, là, Jésus ». Il l'embrasse et il le remet sur ça. C'est son petit larvaire.
OK.
C'est pas plus haut que 5-6 cm.
Mais là, dans le contexte d'Apulée, il a quand même été accusé parce qu'il possédait ça.
Des talismans.
Mais c'était quand même commun, finalement.
C'est commun. Ça peut vraiment jouer aussi avec le fait qu'il y ait des statuettes de ces cultes à mystère.
Okay. Au final...
C'était un cumulatif, puis avec ses poissons.
C'est ça, puis c'est juste parce que son futur beau-frère l'aimait pas beaucoup, dans le fond.
Ouais, c'est ça. Ça okay. fait juste ça.
Mais est-ce que ça l'arrivait souvent? Puis encore là, je m'en excuse, mais dans les sorcières de Salem, c'était souvent des accusations entre familles, entre proches. Est-ce qu'on voit ça aussi dans les accusations en Antiquité?
Bien, Apulée, c'est un cas, mais je connais pas tous les cas non plus, là.
OK.
Mais j'imagine quand même, sans connaître les sources, qu'effectivement, ça... Tu devais pas accuser quelqu'un qui vient d'une autre cité, là.
Non.
Tu devais... J'imagine...
C'est dans l'entourage en premier qu'on va accuser.
Mm-hmm. OK. Et ça pouvait faire des bons soupers de famille.
Mm-hmm. Ouf, intéressant.
Oui.
Puis je pense qu'on a fait, grosso modo, le tour un peu de la magie, mais avais-tu un dernier mot pour la fin?
Tant que les dieux sont avec vous, payez-vous pas de leur tête.
Ah! Je vais essayer.
Oui.
En maudissant les personnes qui ont volé mes vaches, oui. Je vais essayer.
Ouais. Moi, je vais aller promener dans un cimetière pour trouver un magicien ou une magicienne. Attends, j'avais une question par contre.
Ah!
Oui, parce que là, on parle des magiciens et des magiciennes avec leur relation avec les dieux. Mm-hmm. Est-ce que quand ils se faisaient accuser ou quoi que ce soit, c'était les dieux qui finalement, j'avais pas assez bien servi telle ou telle entité? Est-ce qu'il y avait un lien avec ça? Parce que moi, je ne connais rien au culte à mystère et tout, là, donc...
En fait, la différence entre la magie et la prêtrise, si on veut, pour l'époque, c'est que la magie, on oblige le dieu à agir contre sa volonté, et la prêtrise demande « Ah, peux-tu me faire ça? En échange, je te donne un cadeau. » L'autre, c'est « Je t'oblige et je te donne rien en échange. »
OK, bien, c'est vraiment intéressant. Ouais. Bon, ben merci, ça a répondu à ma question.
Ça fait plaisir.
Ben merci beaucoup, Laurie, de t'être prêtée au jeu de l'historienne ou de l'antiquisante, en tout cas.
Un bon mélange de tout.
Voilà, puis c'était vraiment plaisant de te recevoir pour le podcast.
Merci de m'avoir reçu aussi et invité.
Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on a de la musique de Cabane à sucre en background, donc nous, on va aller manger une petite tire après l'enregistrement. Puis, on vous souhaite une très belle journée. Puis encore une fois, merci, Laurie, d'être venue.
Ça fait plaisir.
Mon père aussi, ma mère n'avait que moi d'enfant.
Mon père aussi, ma mère n'avait que moi d'enfant.
N'avait que moi d'enfant, la destinée d'un roseau bois.